La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Malouf. Je suis en responsabilité dans l'église baptiste Toulouse Métropole. J'ai le plaisir d'être avec vous pour ce moment. Et j'aimerais qu'on étudie le cinquième chapitre de la première épître de Pierre. Pierre, qui est un apôtre qui a vu Jésus de ses yeux, nous confie dans ce début du chapitre 5 les coulisses d'un entretien entre pasteurs quelque part. Ça nous est rendu public. C'est un pasteur qui commence à parler à des pasteurs. Et alors vous n'êtes peut-être pas pasteur, mais c'est intéressant de voir ce qu'un responsable d'église peut dire à un autre. On est comme dans les coulisses d'une réunion entre plusieurs responsables d'église, quelque part. Et ça vous est peut-être déjà arrivé d'écouter une interview ou de la regarder sur YouTube sur un sujet qui ne vous intéressait pas de prime abord. Mais juste par curiosité, vous regardez et le temps passe, les idées s'enchaînent, et à la manière dont l'interview s'est déroulée, vous vous êtes dit finalement, je ne comprenais pas tout, mais ça avait le mérite d'être intriguant, j'en redemande. Le rôle d'un pasteur, cette position d'autorité dans l'Église, elle est assez intrigante. Pierre, il va encourager les pasteurs, qu'il appelle ici les anciens, c'est un terme pour désigner les responsables dans l'Église, il les appelle à prendre soin de l'Église de manière volontaire. Il les appelle aussi à ne pas voir leur gain, ne pas poursuivre un gain sordide, va-t-il dire, mais en y mettant tout leur cœur, en se dévouant à eux. Et il va aussi les appeler à ne pas dominer sur eux. Et on peut se poser la question, mais comment avoir du crédit aujourd'hui dans ce monde? Comment asseoir son autorité sans dominer quelque part sur les autres? Eh bien, pour ce faire, il les appelle à être un exemple, un modèle pour tout le groupe qu'ils ont à charge. Et c'est intéressant, là on commence à voir où Pierre veut nous amener. Si on compare l'autorité à une influence qu'on a sur quelqu'un d'autre ou sur un groupe, on imagine bien qu'il est nécessaire d'être exemplaire. Dans le milieu du sport, pour être suivi par ses fans, le joueur de tennis par exemple doit avoir un jeu exemplaire, mais aussi un comportement que ses fans approuveront, mais aussi que l'arbitre peut tolérer, peut accepter. Il en est de même pour les responsables d'église, à la différence près que les responsables dans une église devront rendre compte à une autorité bien plus supérieure et glorieuse, ils rendront compte au souverain berger. Ils ont une redevabilité envers Dieu lui-même, ils ont des comptes à rendre à Dieu de la manière dont ils vont prendre soin du troupeau. Et avant d'aller plus loin, je vais vous lire le chapitre 5 en grande partie, et j'en tirerai quelques pistes d'encouragement pour notre vie. Voilà ce que Pierre nous dit ici au chapitre 5. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, je ne vous ai pas lu, mais Pierre terminera son épître par des salutations fraternelles et plus personnelles. Mais ici, j'aimerais me focaliser sur la substance de ce chapitre 5, donc tout ce que je viens de vous lire. Et il y a un fait important à noter ici. Je voudrais commencer par là. Celui qui nous rappelle toutes ces choses, donc c'est l'apôtre Pierre, et il tire sa légitimité de son expérience vécue parmi les 12 disciples de Jésus. C'est très important, puisque lui, il a entendu et vu Jésus directement. Il a aussi reçu de Jésus son appel à le suivre et à être son porte-parole. Et il a aussi reçu de Jésus la mission de prendre soin du troupeau, de son troupeau. Le troupeau de Jésus est confié d'une certaine manière. Il y a comme un relais avec Pierre pour qu'il prenne soin, que Pierre prenne soin et continue l'œuvre de Jésus. Toutes ces infos sont très importantes parce qu'il légitime et il crédite tous les propos de l'apôtre. On voit bien que Pierre n'est pas n'importe qui. Son conseil aux autres églises et aux autres pasteurs est reçu solennellement à l'époque. C'est un grand honneur de recevoir de Pierre, celui qui a vu Jésus de ses yeux, qui a entendu ses enseignements. C'est un grand honneur pour tous ceux qui recevaient les épîtres de Pierre. Et ils avaient un profond respect de ce qu'il a écrit et voulaient s'y conformer. Voilà pour le contexte culturel et historique. À partir du verset 5, Pierre rentre dans encore plus de substance, si on peut dire, et encore plus de substance pour toute l'Église, parce que ce n'est pas seulement au pasteur qu'il s'adresse à partir du verset 5, mais à l'Église dans son ensemble. En se souvenant probablement des faits marquants qu'il avait vécus auprès de Jésus, puisque lui était à ses côtés. Peut-être se souvient-il de la fois où il a échappé à l'épée romaine dans le jardin de Gethsémané, lorsque Jésus se met au devant des disciples pour les protéger, ordonnant aux Romains de laisser tranquilles les siens, mais de le capturer lui. Peut-être et certainement que Pierre a aussi en tête le moment où Jésus s'est agenouillé pour lui laver les pieds, à lui, mais à tous les disciples aussi. Pierre a vécu tant de choses marquantes auprès de son maître, et paradoxal pour un maître. En effet, à l'époque de tous ces événements, Pierre avait de la peine à comprendre pourquoi Jésus ne profitait pas de sa puissance et de son autorité pour en tirer un profit immédiat, pour régler des problèmes immédiats. Là où les autres rabbins juifs de l'époque profitaient de leur savoir ou de leur position pour davantage faire valoir leurs propres droits, pensant davantage à leur propre confort qu'à la cause de ceux qu'ils avaient à charge, leur propre peuple. Pierre avait reconnu en Jésus le maître, et il avait aussi vu à l'œuvre ce maître de ses propres yeux. Mais c'était un maître pas comme les autres, c'était un maître serviteur. C'est dans cette dynamique d'abaissement que l'apôtre nous invite à réfléchir à notre propre place et à notre rapport les uns aux autres. Il nous dit « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Pierre avertit ici particulièrement la jeunesse, puisque dans les qualités qui sont les siennes, comme le zèle, l'énergie débordante, la créativité ou la rapidité d'exécution, eh bien, il peut se mêler une fâcheuse tendance à l'arrogance, pensant faire mieux que la génération qui l'a précédée, et plus efficacement en plus de cela. Mais, pour être honnête, nous étant nous-mêmes vautrés dans de tels schémas orgueilleux, nous en connaissons la fin et savons que Dieu a un meilleur plan pour nous que nous voir nous élever nous-mêmes. Il veut en fait lui-même nous élever, mais selon son temps, à son tempo et non au nôtre. Mais ça serait trompeur que de penser que l'orgueil ne contamine que les plus jeunes dans la foi. Ce serait de l'orgueil que de penser que l'orgueil ne me contamine pas au fond. Il nous suffit de quelques compliments reçus ou de quelques talents perçus chez nous pour que ce fléau nous atteigne et nous amène à penser que notre vie et nos projets sont plus importants que ceux des autres. Et avec une telle pensée, je n'ai aucun problème éthique à me servir des autres autour de moi. Puisque je suis convaincu que les autres serviront un plan qui, même s'ils ne le comprennent pas, est plus important que leur projet à eux, ou même que leur vie. Vous voyez vers quel désastre une telle manière de penser nous amène. Heureusement, la bonne nouvelle de Jésus nous invite à fonctionner autrement, parce qu'elle nous fait considérer Dieu comme étant le souverain, son plan comme plus glorieux que nos petits projets individualistes. Et ce souverain, il voit tout, il demandera compte de tout et rendra justice de tout. Il récompensera aussi les pas de foi de chacun. Et la manière dont il a de le faire, c'est qu'un beau jour, il nous élèvera lui-même au temps convenable, c'est-à-dire pas avec notre tempo et notre vision des choses, mais selon sa vision des choses et son temps. Il serait effectivement trompeur de penser que je peux courir seul. Je peux courir seul un sport qui est collectif. La vie d'église, la vie dans le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un sport solo, mais bien un sport collectif. Et l'orgueil fonctionne comme un aveuglement qui nous fait penser que l'on voit mieux seul, ou l'on voit mieux sans le regard de Dieu et son conseil, sans sa parole pour nous éclairer et marcher comme il convient à des enfants de Dieu. S'isoler socialement peut causer du trouble dans notre âme. Parfois, ça nous amène à nous entêter dans notre orgueil. Et parfois, c'est notre orgueil qui nous pousse à nous isoler des autres, pensant mieux faire sans les autres. Mais Dieu pense autrement. Dieu nous voit fonctionnant les uns avec les autres, et c'est ainsi qu'il nous a créés, ainsi qu'il nous a voulu en Église, c'est-à-dire entre frères et sœurs, comme dans un corps humain. Paul va évoquer l'idée que l'œil ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». De même, un croyant ne peut pas ignorer qu'il a besoin des autres, de ses frères et sœurs dans la foi pour progresser. Je ne peux pas ignorer qu'il y a une sagesse dans un frère plus mature que moi qui m'aidera à marcher avec Christ. En ignorant ce frère plus mature, je me coupe d'une partie de la sagesse que Dieu veut me donner. Nous grandissons en relation les uns avec les autres dans l'Église. C'est ainsi que Jésus a voulu bâtir son Église. Il ne la bâtit pas autrement que les uns aux côtés des autres. C'est un peu comme si je mutilais une partie de mon corps, je finirais par comprendre que j'avais besoin de cette partie pour bien fonctionner. Mais il en est de même quand un membre dans une église rejette un autre membre ou méprise un autre membre parce que peut-être il n'a pas les mêmes affinités ou il ne lui convient pas, entre guillemets. Mais tout ça est folie et vient de l'orgueil qui nous divise les uns les autres, qui nous amène à nous mépriser les uns les autres. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans l'église de Jésus-Christ. Son plan est glorieux et nous veut les uns aux côtés des autres. Je voudrais faire une parenthèse sur ce que l'humilité n'est pas. L'humilité n'est pas la dévalorisation de soi. Nous pouvons avoir un complexe d'infériorité qui nous pousse à voir toujours les autres comme étant supérieurs à nous en valeur. Mais c'est une forme d'idolâtrie des autres, comme nous nous plions à craindre les autres plus que Dieu et ce qu'il a pensé de nous. Tout le monde semble meilleur que nous, mais l'humilité biblique est une juste perception de notre condition. Nous sommes petits et misérables par notre nature propre, mais cette acceptation de notre misère sans Dieu produit que nous cherchons Dieu et nous voyons toute la valeur qu'il nous a manifestée et tout son amour qu'il a manifesté en Christ pour nous rétablir, nous réconcilier avec Dieu et ainsi nous pouvons fonctionner en étant des enfants racheté par Christ et joyeux de notre valeur. Christ nous donne toute notre valeur, nous rend notre éclat parce qu'il Il rétablit ce qui était brisé en nous. La relation avec le Créateur a été brisée dès l'origine. Mais Christ, comme étant le nouvel Adam, vient démarrer comme une humanité 2.0, une nouvelle ère de l'humanité. Il est le premier-né de toute la création, il est dit. Et c'est ainsi que l'Évangile rétablit toute chose et nous empêche tout orgueil, finalement, quand nous comprenons notre valeur et que toute notre valeur est en Christ. Alors il n'y a aucune raison pour nous de nous vanter de cette belle valeur, puisque c'est Christ qui nous l'a donnée. Je peux donc servir les autres sans attendre d'être servi, comme si tout m'était dû. En effet, tout m'est déjà donné en Christ. C'est lui mon précieux trésor, ce précieux héritage dont Pierre parle quelques chapitres auparavant, cet héritage inaltérable. Et il est aussi mon défenseur lorsque le diable m'accuse. Si je suis protégé par la main puissante du Dieu souverain, qu'ai-je à craindre désormais? On pourrait se demander alors que vient faire cette exhortation de Pierre à résister au diable, au verset 8. Je vous relis, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Que faire devant la réalité du diable? De celui qui essaye de s'élever lui-même en ennemi de Christ? Il ne s'agit pas de craindre le diable comme nous craignons Dieu. Dieu seul possède toute autorité dans le ciel et sur la terre. Lui seul mérite la crainte et le respect de ses créatures. Mais Pierre ne veut pas que nous ignorions la réalité du diable. Car il sait bien qu'en minimisant sa réalité, nous minimisons aussi sa capacité à se déguiser en ange de lumière et à singer l'amour de notre roi serviteur, Jésus-Christ. Le diable, pour nous détourner de la beauté de Jésus-Christ, nous met devant les yeux tout un tas de trésors périssables qui, par leur éclat éphémère, nous font oublier la glorieuse éternité que Dieu veut nous faire connaître par le Fils. Nous voyons cependant que Pierre se focalise davantage sur la puissance du Dieu souverain manifesté en Christ et son Église. La partie qui nous parle du diable est présente au verset 8 et 9, mais si infime par rapport au reste du texte, et surtout, elle est encadrée par deux affirmations puissantes concernant l'action omniprésente de Dieu. Au verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et au verset 10, il est question du Dieu de toute grâce qui nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Ainsi, les versets 8 et 9 qui parlent du diable sont comme pris en sandwich entre deux déclarations qui proclament la puissance, la fidélité et la souveraineté de Dieu pour nous protéger et nous secourir dans la fournaise que nous pouvons vivre lorsque nous voulons honorer notre Dieu. Ainsi, nous voyons que ce n'est pas le diable qui a le dernier mot sur les enfants de Dieu. Ce n'est pas le diable qui encadre la vie du croyant, mais la main puissante de Dieu. C'est Dieu qui encadre la vie du croyant. C'est Dieu qui protège le croyant parce qu'il est le bon berger par excellence et qu'il est puissant. Pierre veut nous faire comprendre que pour résister au diable, à ses attaques et à ses mensonges concernant la bonté et la beauté de Dieu, c'est de Dieu lui-même dont nous avons besoin. C'est Dieu lui-même qui vient à notre secours et qui nous donne la capacité, au travers des vérités le concernant, sa parole est stable, son caractère, sa bienveillance, sa bonté, son amour pour nous, toutes ces choses demeurent inaltérables. Ces promesses vécues ensemble en Église, entre frères et sœurs dans la foi, et dans une attitude d'humilité, comme celle du Maître lui-même auprès de ses disciples. C'est de tout cela dont nous avons besoin pour persévérer dans la foi, ou peut-être pour revenir à la foi si nous nous sommes égarés. C'est en regardant à Jésus, qui, bien qu'égal à Dieu en essence, s'est revêtu de notre humanité, s'est abaissé pour nous servir et donner sa vie pour nous, nous obtenant le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. C'est l'évangile qui englobe la vie du croyant, c'est-à-dire la victoire de Christ à la croix sur la mort et le péché. Face à une telle réalité historique, glorieuse, manifestée à de nombreux témoins, le diable ne peut rien faire. Je dis parfois aux jeunes que j'accompagne et qui ont des questions sur la foi, lorsqu'ils se confessent sur un péché, je leur dis « Mais crois-tu que ton péché est assez puissant pour enlever l'œuvre de la croix il y a 2000 ans ? Crois-tu que par ta chute, tu peux enlever une œuvre glorieuse dont l'auteur est le Tout-Puissant Dieu, le Seigneur de l'univers ? Crois-tu que ton péché peut enlever cette croix il y a 2000 ans ? Non, il n'est pas plus fort. C'est ce précieux Jésus mort sur cette croix qui enlève ton péché, et non ton péché qui enlève la croix de Christ. Je prie que nous puissions changer notre regard au sujet de l'humilité parce que nous aurons changé notre regard sur l'autorité de Dieu en la considérant comme bonne et puissante. Lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous a aimés et servis en Jésus-Christ, alors s'humilier devant un tel Dieu n'est plus folie mais devient complètement un gage de sagesse, de joie et de paix pour notre âme, sachant que lui-même prend soin de nous et nous rendra inébranlables. C'est ce Dieu qui mérite toute notre adoration. C'est lui qui mérite toute la gloire au siècle des siècles. Amen.
Un fils attendu, un ange apparu, disant à Marie, l'œuvre de l'Esprit. Une grande nouvelle, un enfant est né, c'est Emmanuel qui nous est donné. Peuple nombreux, entendez-vous l'ange qui vint là, annonçant Dieu avec nous. Lui qui s'abaissa, peuple nombreux, entendez-vous l'ange qui vint là, annonçant un Dieu avec nous. Lui qui s'abaissa, il est venu pour sauver toutes les générations. Notre dette est payée. Notre dette est payée, plus aucune condamnation. Promesse accomplie, prouvée par sa vie, futur souverain, montrant le chemin. Celui qui vivra, beaucoup de dix. Ses bras subissant la haine. Peuple nombreux, entendez-vous l'ange qui vint là, annonçant un Dieu avec nous. Lui qui s'abaissa, peuple nombreux, entendez-vous l'ange qui vint là, annonçant un Dieu avec nous, lui qui s'abaisse. Il est venu pour sauver toutes les générations. Notre dette est payée, plus aucune condamnation. Il est venu pour sauver toutes les générations. Notre dette est payée, plus aucune condamnation. peuples nombreux, entendez-vous